J'ai fait un rêve.
Dieu m'a donné un rêve.
Mon église.
Il y a longtemps. Est-ce que ça va rester qu'un rêve?
On fait tous des rêves.
Comment connaître celui de Dieu?
Est-ce que c'est si long?
Je me sens perdue. J'ai fait un
rêve. J'ai fait un rêve. Je le sais.
Je veux trouver la force de tenir.
Je perdrai pas l'espoir.
Je perdrai pas la foi.
Je sais que Dieu n'a pas oublié ce rêve.
Je sais que Dieu a encore un rêve.
Pour ma maison, pour mes enfants, pour mon église,
pour moi.
Bon matin, Nouvelle Vie. Vous allez bien?
Oui.
Vous me souriez?
Oui.
OK. Je vous crois. Sur parole. Une joie d'être avec vous ce matin. Comme Lévi a mentionné, j'ai apporté quelques coffrets d'enseignement qui sont à la table en arrière sur différents sujets, dont celui-ci, traverser les épreuves. Alors, comment on traverse les épreuves? Il y a 4 messages d'encouragement. Et pour ceux qui sont plus vieux, non, c'est pas une cassette, c'est une clé USB. Pour les plus jeunes, laissez faire, je sais que vous ne comprenez pas c'est quoi une cassette, mais c'est bien correct. Dans la série du rêve de Dieu, le titre du message ce matin, c'est « La quête de sens ». La quête de sens. Viktor Frankl, qui est un psychiatre, a écrit « Celui qui a une raison de vivre peut supporter n'importe quoi ». Et quand il le dit, ce n'était pas simplement une belle parole philosophique. C'est quelqu'un qui a survécu au camp de concentration étant juif et ayant été arrêté par la Gestapo. Nietzsche a dit, « Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut vivre avec n'importe quel comment. » En d'autres mots, j'ai besoin de trouver le sens de ma vie. Et pour moi, c'est ça le rêve de Dieu. C'est simplement la mission de Dieu, c'est l'appel de Dieu, c'est la raison d'être de ma vie, le sens de ma vie. On a tous une raison d'être à nos vies. Un des effets pervers de la théorie de l'évolution, c'est que nous sommes ici par hasard, on flotte sur un caillou et après on meurt. Bonne nouvelle. Et la question se pose, mais si on est juste ici par hasard, il n'y a rien après la mort, à quoi bon vivre? Et ça explique la philosophie de notre société, mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons. Donc on va mettre toute notre enfance sur notre plaisir, parce qu'on n'a pas de sens à nos vies, on n'a pas de mission dans nos vies, on n'a pas de raison d'être à nos vies. Mais c'est tellement faux, parce que chaque être humain est ici, en ce temps de l'histoire de l'humanité, est voulu et désiré par Dieu pour un but et une raison d'être. Il y a un sens à ta vie. Personne n'est un accident, même si c'est ce que tes parents t'ont dit. Tu as peut-être été un accident, un imprévu, une surprise, pour tes parents, mais tu as été voulu de Dieu. Personne n'est inutile. Et donc, il y a un appel à découvrir, mais Seigneur, c'est quoi ton intention pour ma vie? Attention, trop souvent, on présente ceci comme quelque chose de grandiose, de public, une grande mission de Dieu, comme Joseph qui va sauver le pays entier. Mais souvent, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus discret. Mais ça ne veut pas dire que ça a moins de sens et moins de valeur aux yeux de Dieu. La clé, c'est d'être trouvé fidèle dans ce que Dieu nous demande. Et donc, ce matin, pour trouver cette raison d'être, le sens de ma vie, j'ai besoin de réaliser, premièrement, que ce sens, cette mission, vient de Dieu. Elle s'accomplit par Dieu. Elle est accomplie devant Dieu. Et elle est pour Dieu. La première chose, c'est de réaliser que cette mission, cette raison d'être, elle vient de Dieu. Dans Genèse 37, le verset 5, Joseph fit un rêve. Et dans ce rêve, Dieu va lui révéler sa mission, sa raison d'être, son appel. Chacun de nous, nous avons une mission, nous avons une raison d'être à nos vies. Le psaume 139 le dit comme ceci, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » En d'autres mots, quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a tissé, quand Dieu t'a formé, il t'a formé avec une intention. Une intention derrière, une mission, une raison d'être, un sens. Et parce que cela vient de Dieu, je dois chercher à découvrir dans une relation intime avec Dieu quelle est cette vision pour moi. Trop souvent, on est influencé par des sources externes. Trop souvent, l'influence des voix externes. Parfois même, on peut être forcé, poussé dans les plans de quelqu'un d'autre pour nos vies. C'est le piège pour tout parent de voir son rêve pour son enfant et d'accomplir son rêve dans la vie de son enfant. Mais ça, c'est un piège, parce que est-ce que cet enfant-là a ce rêve-là? Est-ce que cet enfant-là a cet appel-là? Est-ce que cet enfant-là a cette mission-là? Est-ce que cet enfant-là a ce sens à sa vie? Des fois, on peut mettre tellement de pression sur nos enfants. Des fois, ça peut être notre entourage, notre culture, notre société qui va nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, voici ce que tu devrais faire, toute la famille a toujours fait ça. Des gens qui se retrouvent dans des entreprises, qui se retrouvent dans des emplois, et tu leur demandes, mais pourquoi tu fais ça comme travail? Tu as toujours rêvé d'être ça? Non, chez nous, on n'a pas le choix, on est tous des avocats. Ah bon? Chez nous, on n'a pas le choix, on déboule tout dans le même travail. Dans notre culture, dans notre société. Et on se retrouve forcé. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aller devant Dieu, j'ai besoin d'aller à Dieu pour entendre ce que Dieu a à me répondre. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? C'est pour cela que je dois faire attention à qui je partage ce que je ressens comme appel de Dieu sur ma vie, comme raison d'être. Je dois faire attention à qui je le partage. Tu vois, c'est l'été l'erreur de Joseph. Joseph a partagé son rêve à ses frères alors que la parole de Dieu nous dit, ses frères le détestaient. Ses frères l'haïssaient avant même qu'il ait confié l'appel de Dieu, le rêve de Dieu sur sa vie. On sait le résultat, hein? C'est le sens de l'avertissement que Jésus nous fait. En Matthieu 7, le verset 6, il dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ils ne se retournent et ne vous déchirent. » Pour nous, c'est un peu vulgaire, hein? C'est un peu grossier de traiter les gens de chiens et de pourceaux. Mais tu vois, à l'époque de Jésus, c'est pas ce sens-là. À l'époque de Jésus, c'est décrire des personnes qui ne savent pas reconnaître ce qui est saint, qui ne savent pas reconnaître ce qui est précieux, ce qui vient de Dieu. Et Jésus dit, fais attention à qui tu confies tes perles. À qui tu confies les choses que Dieu dépose dans ton cœur. Je me souviens de la réaction de mon père quand je lui ai annoncé, « Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je vais devenir pasteur. » Ouh! Je ne vous dirai pas ce qu'il a répondu, mais en conclusion, il me reniait. « T'es plus mon fils. » C'était ça. Tu vois, pour moi, c'était une perle. J'étais tellement heureux. Je venais de vivre quelque chose, puis je ressentais que Dieu venait de déposer dans mon cœur. Tu vas devenir pasteur. Yeah! Pour mon père, c'était la pire nouvelle de sa vie. Et il a piétiné ce qui était précieux pour moi. Bon, heureusement, j'étais capable de m'en détacher, là. Hein? Mais j'ai besoin de faire attention à qui je partage ce que Dieu, le rêve que Dieu dépose dans mon cœur, la mission que je ressens dans mon cœur. Partage ton rêve, partage ton désir avec des gens qui t'aiment, des gens qui vont prier pour toi, puis des gens qui vont prier avec toi. Parce que c'est correct de confier nos choses pour avoir du discernement. Hein, dans une multitude de conseillers, il y a de la sagesse. C'est correct d'avoir des gens qui disent « Qu'est-ce que tu en penses? Prie pour moi. » Mais des gens qui sont dignes de confiance, que je vais leur confier ce que je ressens, que Dieu dépose, qui ne sont pas en compétition avec moi, mais qui vont m'encourager dans ce que Dieu met dans mon cœur. C'est un rêve, c'est un sens qui vient de Dieu, mais deuxièmement, c'est un sens qui se fait par Dieu. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. nous dit dans, est écrit dans Genèse. Genèse 39, versets 21 à 23, c'est dit, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite dans ce qu'il faisait. » Tu vois, le plan de Dieu s'accomplit par Dieu. C'est ce que la famille de Joseph n'avait pas compris. Ils croyaient que Joseph allait accomplir ce rêve-là de ses propres forces et après être rempli d'orgueil. Mais le plan de Dieu ne peut s'accomplir que par Dieu. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil. Parce que le plan ne peut pas s'accomplir, la mission ne peut pas s'accomplir, ta raison, ton sens à ta vie ne peut pas s'accomplir sans l'intervention et l'aide de Dieu. C'est pour cela, Jésus le dit comme ceci, dans Jean 15, le verset 5, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En d'autres mots, tu vas avoir besoin de Dieu. Il a également envoyé le Saint-Esprit aux disciples. Il dit, « Je vais vous envoyer une puissance pour accomplir ce que Dieu vous appelle à faire. » Dieu ne te laisse pas seul avec sa mission et dit, « Voici, c'est ce que je veux que tu ailles faire. Vas-y, go. » Puis viens me faire un rapport, mais que tu aies fini. Non. Dieu dit, « Je vais y aller avec toi. Je vais te donner la force. » C'est pour cela que le rêve, la mission, la raison d'être de ma vie fait toujours peur. Toujours. Si tu cherches sincèrement la volonté de Dieu pour ta vie, la raison d'être de ta vie, le sens de ta vie, et quand tu le ressens, tu n'as pas peur, retourne en prière, tu n'as pas entendu de Dieu. Hey, moi, je vais à Dieu quand j'ai peur. Là, tu me dis, il faut que j'aille à Dieu pour avoir peur. Ouais. Tu vois, parce que quand Dieu va te confier ce qu'il va te confier, là, tu vas avoir la frousse de ta vie parce que tu vas te dire, c'est impossible. C'est impossible. Mais dans l'impossible, c'est la place de Dieu qui est là. Tu vois? C'est ça l'idée. C'est quand je regarde, je dis, hein? Cet espace d'impossibilité, c'est l'espace où Dieu va venir agir, que Dieu a besoin d'agir, parce que je ne peux pas le faire par mes propres forces. Peut-être que tu as une mauvaise estime de toi. Peut-être parce que dans la manière que tu as été élevé, on a magané ton estime, on n'a pas encouragé ton estime personnelle, on n'a pas célébré tes forces, tes talents, tes émotions. Et tu as une mauvaise estime de toi. Et bien souvent, quand on a une mauvaise estime de soi, on se compare aux autres. Je sais qu'il n'y a pas personne qui fait ça ici, là. Vous avez tous l'air du bon monde, là. Surtout que vous êtes tous masqués, mais bon. mais on se compare les uns aux autres. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et qu'est-ce que tu veux faire à travers moi, avec les dons, les talents que tu m'as donnés? Que tu m'as donnés. Des fois, tu peux avoir l'impression qu'il n'y a rien de bon à faire avec toi. Il n'y a rien de bon à faire. Regarde qui je suis. Il n'y a rien de bon à faire avec moi. Mais si je regarde bien la liste des héros de la foi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'encourage. En bon Québécois, là, une belle gang de poquets. Il y en a qui ont des... En tant que thérapeute, là, moi, je vous le dis, je lis ça, là, puis je regarde leur histoire, il y a du monde magané dans ça, là. Et ils sont où? Ils sont dans les héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Dieu le faire à travers eux. Tu vois, ils l'ont fait par... Pas par leur propre force, mais ils l'ont fait par Dieu. Ils ont laissé Dieu agir en eux. à travers eux. Souviens-toi du roi David quand il va être loin. Puis c'est écrit dans 1 Samuel 16. Hein? Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Parle à ses frères. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Dieu connaît ton cœur ce matin. Dieu connaît ton désir. Dieu connaît ta sincérité. Dieu connaît ton intégrité. Dieu connaît les désirs les plus profonds de ton cœur, même si personne d'autre le sait ou le voit. Dieu, lui, connaît ton cœur. Le sens et la raison d'être de nos vies nous vient de Dieu et elle s'accomplit par Dieu. Mais troisièmement, elle s'accomplit devant Dieu. Dans Genèse 39, le verset 9, c'est dit, « Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? » Joseph savait, il a résisté aux avances de la femme de Potiphar parce qu'il savait, « Non, non, mais je suis sous le regard de Dieu. Je suis devant Dieu. » Joseph savait que même s'il n'y avait personne autour, il y avait quelqu'un au-dessus. Il y avait quelqu'un au-dessus. Il savait, il réalisait qu'il vivait sous le regard de Dieu. C'est ce que David avait oublié. Quand tous étaient à la guerre, nous dit la parole de Dieu, quand tous les hommes étaient à la guerre, et que David est allé prendre une marche le soir, et qu'il y avait une femme en train de prendre son bain, et qu'il a été tenté, et qu'ensuite David va commettre l'adultère avec Bathsheba, il avait oublié de regarder en haut. Il a regardé autour, il n'y a personne dans le château, tout est beau, je vois la femme. Il a oublié de regarder en haut. Tu vois, c'est ce qui va prendre conscience dans sa repentance. Dans le psaume 51, il va dire, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. » David venait de prendre conscience qu'il vivait devant Dieu. Plus tard, il va écrire encore une fois dans le psaume 139, le verset 5, « Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Il va dire que même les ténèbres sont comme lumière devant toi. Tu me vois constamment, ton regard est sur moi. Tu es et je suis toujours sous le regard de Dieu. Toujours. Toujours. Je ne sais pas ce que ça te fait, pas si tu te sens mal, mais tu vois, ce n'est pas un regard de jugement. C'est un regard d'amour. Un regard d'amour qui confirme que j'existe, qui confirme qu'il me voit. Si tu as des petits-enfants, tu vas me comprendre. Si tu as des enfants, en partie, tu vas me comprendre. Mais si tu as des petits-enfants, tu vas vraiment me comprendre. Le temps qu'on peut passer à regarder nos petits-enfants, même quand ils sont bébés et ils dorment, bon, on les regarde. Sont-tu beaux? Surtout quand ils dorment, sont-tu sages? Des petits anges. Hein? C'est quand ça se réveille que là, ça... Bon, ça, c'est une histoire. Hein? Mais on peut passer des heures juste à regarder un enfant. C'est ça, le regard de Dieu. Le regard de Dieu, c'est que Dieu me regarde comme je regarde mes petits-enfants. Il prend plaisir en moi. As-tu déjà joué à coucou avec un petit, hein? Un an? Hein? Puis on fait coucou. Hein? Puis l'enfant, wouh! Et tu peux faire ça pendant une heure de temps. Tu as encore la même réaction. Tu peux être essoufflant pour grand-papa, là, mais bon. Et tu vois, ce qu'on a réalisé pour l'enfant, c'est que quand il ne te voit pas, tu n'existes pas. Donc, quand tu réapparais, c'est le jour de la Genèse. C'est Genèse 1. Il n'y avait rien, pouf, et tu existes. Wow! C'est énorme! Mais c'est une étape de plus. C'est ce qu'on a découvert chez les enfants. C'est que quand il ne te voit pas, tu n'existes pas. Quand tu réapparais, wow, tu existes. Mais quand il voit dans tes yeux que tu le regardes, l'enfant se dit, wow, j'existe. J'existe parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. L'enfant n'est pas capable de se projeter pour le sentiment d'exister. Fait que moi, je me suis dit, OK, il faut que je vérifie la théorie. Il faut que j'aille voir ça. Fait que je l'ai fait avec mes petits-fils. Je ne l'ai pas dit aux parents, des petites expériences psychologiques. Hein? Puis là, grand-papa, il se cachait. Puis là, grand-papa, puis là, j'avais la réaction. OK, ça marche. OK. Quand je ne les vois pas, ils n'existent pas, parfait. Je reste devant, puis je fais juste cacher mes yeux. Puis d'un coup, je faisais coucou. Et j'avais exactement la même réaction. Tu vois, parce que quand je ne les regarde pas, ils n'existent pas. Quand je les regarde, ils existent. Et c'est certain que quand ils regardent dans les yeux de grand-papa qui les regarde, là, je peux vous dire qu'est-ce qu'ils voient. Hein? Un amour inconditionnel, complètement démesuré. Une fierté d'eux autres. Ils n'ont rien fait, là, mais c'est les plus fins, c'est les plus intelligents, c'est les plus athlétiques. Je comprends qu'il y en a ici qui ont des petits-enfants. Je suis désolé, les pauvres passent en deuxième. Mais ils sont spéciaux, je te le dis. Là, ça, hein? Tu comprends l'intensité de mon regard quand je les regarde? OK. Mais si tu as grandi et tu ne l'as pas eu, le regard. Si tu as grandi, puis peut-être que le regard qui était posé sur toi, c'était toujours un regard qui était dur, un regard de jugement, un regard que... Hein? L'enfant ne se dit pas, « Pouf, mon père, là, je te dis qu'il n'est pas fort. Pas fort, mon père. Pas fort. » Non, non. L'enfant se dit, « Il y a quelque chose qui est fondamentalement pas correct avec moi. » Regarde le regard que je produis. L'enfant n'est pas capable de se dégager de cela. Et tu comprends que quand je ne l'ai pas eu, je suis capable d'aller le trouver en Dieu. Je vais trouver ce regard d'amour en Dieu. Quand Jésus se fait baptiser et la voix du ciel se fait entendre et dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », mais les versions plus récentes sont plus proches de la vérité, « en qui je trouve tout mon plaisir ». Tu es sous le regard de Dieu. Un regard d'affirmation, un regard d'admiration, un regard qui prend plaisir en nous. Il prend plaisir en nous, qui connaît nos limites, qui connaît nos limitations, qui ne s'attend pas à ce qu'on fasse des choses qu'on peut. On n'est pas parfait, puis Dieu le sait. J'aurais aimé savoir un amen, là, mais en tout cas. Parce que tu as besoin de te le dire. Arrête de vouloir... Tu ne l'es pas parfait, là. OK? On peut-tu l'admettre une fois pour toutes? Je ne suis pas parfait. Bon! On s'est enlevé cette pression-là. Mais je suis aimé, par exemple. Je suis aimé. Je suis sous le regard de Dieu. Et il me transforme de gloire en gloire vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Mais c'est un processus. Je vous regarde, là. C'est un processus. Je suis sous le regard d'admiration. Donc, la mission, c'est de Dieu, par Dieu et devant Dieu. Mais tout cela, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est le sens que Joseph ressent. C'est pour Dieu qu'il est en train de faire. Et j'ai été créé, tu as été créé par Dieu pour lui. Il désirait... comme des parents qui, normalement, habituellement, désirent avoir des enfants. C'est très égoïste, hein? Pensez-y si vous avez des enfants. Quand vous avez voulu des enfants, quand vous avez... Je veux des enfants. Et là, quand tu frappes l'adolescence, oh boy, je suis plus sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur vie, eux autres. Ils ne sont pas là juste pour nous, là, hein? Mais Dieu nous désire pour être en communion avec lui. Tu as été créé pour lui apporter plaisir et joie. Et pour faire avancer, pour faire découvrir cette bonne nouvelle de son amour inconditionnel. Tu vois, Dieu veut t'utiliser pour que d'autres sachent ce que tu sais. Pour que d'autres découvrent ce que tu as découvert. C'est le sens d'Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Pas pour être sauvés, mais parce qu'on est sauvés. Colossiens 3, Paul va le dire comme ceci, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Faites-le pour Dieu. C'est pour lui qu'on le fait. n'est pas pour les hommes. Parce que parfois, les hommes ne sauront pas ce que tu as fait. Les hommes ne seront pas au courant de ce que tu as fait. Mais l'important, c'est que tu saches que Dieu a vu ce que tu as fait. Je me souviens d'une situation où il est arrivé quelque chose et puis j'étais en partie responsable de la bonne nouvelle qui était partagée. Et je le savais. Puis il y avait deux personnes autour de la table qui le savaient. Mais les crapauds n'ont pas dit un mot. Et là, je suis assis, puis là, je me dis, hey, oui, mais moi, c'est moi que. Moi, hein, moi. Puis j'ai juste ressenti le Seigneur dire, moi, je l'ai vu, je le sais. OK. Toi, tu l'as vu, hein? Toi, tu le sais. Tu vois, je suis convaincu, il y a plein de gens ici. Tu fais des choses pour l'avancement du royaume de Dieu, il n'y a pas personne qui le sait. Mais je veux juste te dire ce matin, Dieu le sait. Dieu le sait. Tu le fais devant Dieu. Dieu voit ton cœur. Dieu voit tes gestes. Dieu voit. L'église où je me suis converti, c'est une église qui était faite à Montréal, puis c'est une église qui était faite en rond, un peu avec des sièges de théâtre. Et c'était à la vieille époque, là, avec les grillages, le dossier de la chaise en avant de toi avec le livre des hymnes, c'est une église anglaise, hein? Le livre des hymnes, les enveloppes pour la dîme, tout le petit kit. Okay? Quand j'ai commencé à m'impliquer beaucoup plus dans l'église, je me souviens d'un lundi matin, j'étais arrivé dans l'église et puis j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui était dans le sanctuaire. Et j'étais allé voir. Puis il y avait une petite grand-maman que je connaissais, je savais si c'était qui, je savais si c'était la mère d'une autre. Et la petite grand-maman était là, puis elle était assise dans les bancs, puis elle avait une boîte avec elle. J'étais allé la voir, je dis, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, ça, c'est ma mission, ça. Tous les lundis matins, une église de 750 places, tous les lundis matins, grand-maman arrivait avec sa boîte et elle s'assoyait dans chaque chaise. Puis là, elle s'arrangeait pour que tout soit bien propre devant. C'était ça, son ministère. Tout ta propre, clean. Puis elle dit, le temps que je suis assis là, je prie pour chaque personne qui va être assis là dimanche prochain. Elle priait pour 750 personnes qui étaient pour être présentes à l'église à tous les lundis matin. Quelque chose que personne, moi, je n'avais jamais pris conscience que, moi, ça se fait que c'est tout propre, ça. Ça s'est fait comme ça. Elle n'était pas vue aux yeux des hommes. Mais je peux te garantir qu'elle a eu une grande récompense au ciel. Grande récompense au ciel. Devant Dieu. Tu vois, de le faire devant Dieu. Je suis toujours sous le regard de Dieu. Et c'est pour Dieu que je le fais. Mais la méthode ou le moyen, l'ampleur, pour révéler le royaume de Dieu, sont aussi variés que les êtres humains le sont. La façon que tu vas manifester le royaume de Dieu et la façon que je vais manifester le royaume de Dieu sont probablement très différents, parce que nous sommes différents. C'est là qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a personne d'autre. Arrête-toi un instant. Depuis Adam et Ève, il n'y a personne d'autre dans l'histoire humaine passé, présent et futur, qui va être comme toi. Tellement tu es unique. Il n'y aura jamais un autre être humain qui a vécu ou qui va vivre comme toi. Ça veut dire que tu vas être unique dans la manifestation du royaume de Dieu et il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire comme toi. Il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus de compétition. Tous, sans exception. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe ton contexte de ta naissance, tu as une raison d'être, il y a un sens à ta vie, tu es voulu et désiré de Dieu. Il y a une vingtaine d'années de cela, je lisais un peu sur l'idée du rêve de Dieu, et je lisais, puis je disais, Seigneur, et puis je suis allé en prière. Et une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon rêve. Et quand j'ai arrêté, quand j'ai eu fini, j'ai regardé ça, je suis parti à rire. Puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je pense qu'il y a encore des effets secondaires de certaines consommations à mon adolescence. Je ne sais pas pourquoi je regarde Pasteur Jacques, là, mais je regarde Pasteur Jacques. Il y a comme une compréhension de ce côté-là. Là. Puis je me dis, ouf! Et j'ai juste ressenti le Seigneur me dire ceci, parce que c'était je ne suis pas capable de faire ça, là, ça. Et le Seigneur me dit, Daniel, ta vie est comme un voilier. Ma vie est comme un voilier. OK. Moi, je viens de Saint-Henri-Villemort. Hein? Pas beaucoup de voiliers là. À part une pièce de monnaie, il n'y a pas beaucoup de voiliers là, là. Oui, on avait un petit chalet, mais je n'ai jamais fait de voilier de ma vie. C'est pas comme si j'avais passé mon enfance sur un voilier. Ça l'a vraiment, là, ça touche. Je me dis, OK, Seigneur, un voilier, OK, ouais. Explique. Et le Seigneur me dit, Daniel, ta vie est comme un voilier. Tu es responsable des voiles. Puis moi, je vais m'occuper du vent. OK. Moi, je suis responsable des voiles. Toi, tu t'occupes du vent. OK. Et une des voiles que je savais dans ce que je voulais voir à s'accomplir, j'ai dit, je sais qu'il faut que je retourne aux études. Il faut que j'aille chercher une meilleure qualification et des outils pour faire la relation d'aide comme je voulais la faire. Il fallait que je retourne. Et là, il y a un embranchement qui prend place. Les choses déboulent rapidement. Les portes s'ouvrent. Tu sais quand Dieu est dans la sauce? Par Dieu. Et là, les portes s'ouvrent. Et va commencer une aventure qui va durer 5 ans et demi où je vais faire ma maîtrise. Pendant 5 ans et demi là, constamment, le Seigneur, on revient sur le voilier, tes voiles. Non, tu n'es pas prêt. Seigneur, je suis prêt. Non, tu n'es pas prêt encore. Tu es encore OK. On est encore en train de construire les voiles. OK, Seigneur. Hey, Seigneur, il me semble que ça bouge. Il me semble que ça avance. Oui, mais tu ne peux pas ouvrir les voiles. Tu es encore au port. Si tu rouvres les voiles, tu vas cracher dans les autres bateaux. OK, Seigneur, je le sais. Mais là, comment? Let's go, là, tu sais, hein? Et finalement, au début de mai 2006, je dépose ma thèse de maîtrise. C'est fini. Et là, je dis à Dieu, la voile est finie. C'est fini. La voile est finie. Le mois suivant, moi, j'avais oublié que j'étais arrivé dans ce pastorat-là en juin. Et le mois suivant, ça faisait exactement 10 ans que j'étais leur pasteur. Et pour ce faire, ils ont organisé une fête surprise, ce qui m'a énormément stressé parce que tout le monde est au courant, incluant mon épouse, sauf moi. Wow, OK, j'ai pas vu ça, moi. Et tu as besoin de comprendre que mon histoire de voilier, là, c'est un petit peu, hein, on s'entend, là. Et c'est tellement un petit peu bizarre. Moi, je ne parle pas de ça à personne. Même mon épouse, elle ne sait pas l'histoire du voilier, là. OK? Même mon épouse, il n'y a personne qui le sait. C'est entre moi et Dieu. OK? L'histoire du voilier, l'histoire du voilier. Et à cette fête-là, ils m'ont donné un cadeau. Où je sais pas, je vais aller chercher mon cadeau. Là, je viens de faire peur à du monde qui se cache en arrière. Ils ont dit, pasteur, c'est pour toi. Les voiles sont gonflées à bloc. Les vagues, go, on y va. 3 mois après, j'ai remis ma démission comme pasteur. La personne qui m'a donné le cadeau le regrettait. Puis je suis débarqué à nouvelle vie. Tu as un rêve pour toi. Tu as une raison d'être pour ta vie. As-tu réalisé ce que Dieu a comme rêve pour toi? Tu es ici et tu es voulu de Dieu. Pour une raison d'être, pour un sens de ta vie. Même si tu as été une surprise ou une mauvaise nouvelle pour tes parents, tu as été désiré de Dieu. Tu as été voulu de Dieu. Personne qui est ici par erreur. Personne. Mais ce sens, cette raison d'être est individuel à chacun. Dans le respect de ce que Dieu nous a créé. Pour moi, c'est la relation d'aide. Pour toi, ça peut être autre chose. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Je suis toujours envieux quand je regarde des musiciens. Toujours. Parce que j'aurais aimé ça être musicien. J'aurais aimé ça. Mais croyez-moi, ce n'est pas mon appel et ce n'est pas la mission de Dieu. Ben, j'ai pas d'oreille. Ça l'aide pas, ça. Ça l'aide pas. Il faudrait que ça prenne de l'oreille quand tu es musicien. Tu vois, je prends compétition avec eux. Moi, j'ai juste à faire ce que Dieu me demande de faire. Tu vois? Chacun, dans le respect de comment Dieu t'a créé, va en communion, va en relation avec lui. Découvre le sens que Dieu dépose dans ton cœur, son intention quand il t'a créé. Et quand tu vas avoir peur, là, quand tu vas avoir peur, dis, OK, je l'ai, là. Dieu va être avec moi, parce que ça va me prendre Dieu. Et quand il y a des sentiments que personne ne voit ce que tu fais, souviens-toi que tu es devant Dieu. Et Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai les grandes choses. Dieu le voit. Et n'oublie jamais l'objectif, que c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Et un jour, nous serons face à face. Un jour, nous serons face à face. Qu'est-ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu veux entendre? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. T'as accompli la raison d'être de ta vie. Peu importe ce qu'elle est, même si les hommes ne l'ont pas vu. Desmond Tutu, qui était un archevêque en Afrique du Sud, qui a accompagné Nelson Mandela dans toute la révolution qui a pris place en Afrique du Sud, a dit ceci. Faites-le bien par petits bouts, là où vous êtes. Et ce sont ces petits bouts de rien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Quels sont les petits bouts de bien que tu peux faire dès aujourd'hui? Je vous invite à courber vos têtes un instant. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici. Je te prie que tu viennes parler à leur cœur. Il n'y a personne qui est inutile. Il n'y a personne qui est ici pour juste vivre sans aucune intention de toi. Tu as une mission. Tu as un sens à nos vies. Je te prie qu'on puisse tous découvrir ce sens qui vient de toi. Pas qui vient pas des autres, qui vient de toi. Peu importe ce que les autres disent, qui vient de toi. Qui s'accomplit seulement par toi. Qui se fait devant toi. C'est ton regard, c'est ton plaisir, c'est ta joie que je veux voir. Et que tu sois glorifié dans ma vie. En ton nom, Jésus. Amen et amen. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et alors que l'équipe de louange va nous diriger dans le dernier chant, fais de ce chant une prière ce matin. Seigneur, prends mon cœur. Prends ma vie. Glorifie-toi à travers ma vie. Là où tu veux, de la manière que tu veux, dans l'ampleur que tu veux. Mais sois glorifié à travers ma vie.